La Nouvelle Bouquinerie, l'émission des littératures et des poésies sur Radio Campus Paris. Une émission pour écouter des autrices et des auteurs qui nous éveillent. La Nouvelle Bouquinerie, présentée par l'écrivaine et poétesse Mirle.
Si cette nuit devait finir, où mènerait-elle ? Dans le cœur des espoirs ? Le corps sait mieux que quiconque l'art des mots pour l'art d'aimer. Le sens crie. Ce soir, la Nouvelle Bouquinerie accueille Sarah Bourg. Bonsoir.
Bonsoir.
On va avoir la chance ce soir d'aborder vos deux ouvrages, Maman la nuit, et ainsi que Chambre 908, édité chez le Cart Store Astral. On pourra parler aussi d'une très bonne nouvelle qui arrivera chez Grasset d'ici quelques mois. La Nouvelle Bouquinerie abordera aussi Lota la filoute de Astrid Lindgren.
La Nouvelle Bouquinerie, Radio Campus Paris.
Et donc ce soir, nous sommes ensemble, Sarah. Comment ça va ?
Ça va. Bien. Et toi ?
Eh bien, ça va très très bien. Donc, un peu pour spoiler et partager auprès des auditeurs notre rencontre d'il y a quelques minutes déjà, il a été question, au moment où je me réjouissais des deux textes, donc Maman la nuit et Chambre 908, que je recommande chaudement, il était question d'un nouveau livre. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ?
Oui, c'est un livre qui sortira à la rentrée de septembre, donc chez Grasset, malgré le tumulte actuel. La rentrée aura évidemment quand même lieu. C'est un livre qui se déroule sur une après-midi qui met en scène un frère et une sœur qui retournent dans leur famille maternelle après la mort de leur père. Et dans cette famille va se jouer des conflits de classe qui ont modelé la trajectoire du frère et de la sœur depuis qu'ils sont nés. Et les relations familiales vont peu à peu pencher vers quelque chose d'onirique et de fantastique.
Waouh ! Et ça s'appelle comment ?
Les Sangs Bleus.
Les Sangs Bleus, S-A-N-G ?
Voilà.
Les Sangs Bleus, ok. Alors, votre écriture, elle est... Ton écriture, pardon, elle est très très liée aux histoires de famille. En tout cas, dans Maman la nuit, on a la voix d'une petite fille qui nous raconte un peu avec la voix de Meursault ce qu'elle vit auprès de sa maman, ce que sa maman aussi vit dans des situations quand même difficiles. Et dans Chambre 908, on a la mort du père avec une succession de poèmes qui nous emmène quand même au cœur de cette Chambre 908 où il est quand même question du corps. On est quasiment dans un texte, je relisais l'autre amont, on est dans des choses quand même assez chargées où niveau des figures, de style bien sûr, de la façon d'embrasser, dont l'écriture embrasse en fait tout ce que tu décris. On a quasiment deux écrivaines entre ces deux textes. Est-ce que le troisième, on découvrira encore un autre geste ?
Oui, je pense. Enfin, j'ai jamais trop réfléchi à la continuité, enfin a priori en fait de ce que j'écris, c'est après coup que je vois un petit peu les résonances entre chaque texte. Et c'est vrai que pour le coup, entre Maman la nuit et Chambre 908, c'est des impulsions d'écriture qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Maman la nuit est vraiment du côté de la pure fiction. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher cette voie de l'enfance, entre l'enfance et l'âge adulte, ce qu'on peut appeler une très jeune adolescence, on va dire, de cette jeune fille, d'être vraiment dans les yeux de cette jeune fille et de travailler ce rapport à la mère, mais en restant dans quelque chose de complètement fictionnel, en allant travailler vraiment les sensations avec le texte, avec les mots. Là où Chambre 908, pour le coup, est partie d'une expérience intime et réelle, qui est celle de l'accompagnement et de la mort du père. Donc là, j'ai fait plutôt appel à la poésie pour venir faire écho à cette réalité vécue. Donc c'était encore quelque chose d'assez différent dans la construction du texte.
Ouais, c'est beaucoup plus clair, parce que là, c'est vrai que de comprendre les impulsions, elles sont très différentes. Moi, j'ai été très, très séduite par en tout cas dans le pouvoir de séduction de l'enfance, très certainement, en tout cas d'une langue qui fait appel à la notion de pureté qu'on raccroche souvent à l'enfance mais qui n'appartient pas à l'enfance, quand on regarde Les Petits Diables dont il est souvent question. Et la question, en tout cas, que je me suis posée un peu tout au long du texte, c'est celle de l'empathie pour l'enfant quand même qui voit, qui met en scène sa mère qui est maltraitée, hein, avec des prédateurs tout autour de cette mère et cette petite qui regarde cette mère qui est sous la prédation. Comment on s'inspire d'une voix d'un enfant qui ne racontera pas des belles choses ?
Oui, alors en fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que le premier geste d'écriture de ce texte-là, donc de Maman la nuit, c'était vraiment un travail sur la voix. C'était la voix d'une petite fille que j'ai commencé à incarner, à travailler, mais je ne savais pas du tout ce qu'elle allait raconter. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire à ras des sensations, à ras d'une sorte d'étonnement que l'enfance renouvelle à chaque instant. Et c'est vraiment en ça que je trouve que l'enfance est un terrain de jeu assez précieux pour la poésie et pour l'écriture même en général. Donc voilà, donc c'était vraiment cette petite fille, son regard, son corps, son rapport à l'extérieur, à l'étonnement, à l'ambivalence aussi. C'est vraiment ça précisément qui m'intéressait, entre l'amour, la haine, la répulsion, la fascination. Et donc la figure de la mère s'est très vite imposée comme une sorte de miroir un petit peu maléfique, de transmission un petit peu empoisonnée, mais en même temps de quelque chose qu'on peut pas s'empêcher d'admirer. Enfin, la petite fille est vraiment prise entre un amour et une haine, une envie de défendre sa mère, de sauver sa mère et en même temps d'être dans cette incapacité totale à lui venir en aide. Et donc c'est à partir de cette voix que s'est construit le personnage de la mère, le paysage autour. C'est il y a beaucoup qui sont de nature, d'un lac, d'une forêt. C'est comme si vraiment la voix était la colonne vertébrale du texte, la voix de la petite fille. Et tout autour s'est construit au fur et à mesure, comme en résonance. Et il y a une question que je me suis posée aussi pendant l'écriture de ce texte, c'était mais est-ce que cette petite fille est dans la réalité ? Ou est-ce qu'en fait elle est complète ? En fait, est-ce qu'elle raconte pas n'importe quoi ? Enfin, est-ce qu'elle n'est pas dans une espèce d'hallucination perpétuelle ? Et voilà, et donc ce qu'elle décrit et la narration autour s'est construit un peu comme en écho à son propre monde imaginaire et à ses propres pensées et sensations.
Un prince de l'imaginaire, ça a été David Bowie quand il a inventé Ziggy Stardust. On va l'écouter avec Space Oddity.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. It's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating round my tin can? Far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
C'était Space Oddity de David Bowie. Nous sommes toujours ce soir avec Sarah Bourg pour parler de Maman la nuit, de Chambre 908, mais aussi potentiellement un peu du Sang Bleu. Pendant la pause musicale, on a évoqué brièvement pour les auditeurs, et ne rien vous cacher, on a évoqué le rachat de la future maison d'édition de Sarah. Et de ce fait, comment tu le vis, toi, comment tu l'as vécu cette annonce ?
Mal, évidemment. Après, bon, je crois que c'est encore très flou pour tout le monde et c'est une situation hyper compliquée que je saurais pas expliciter mieux que quelqu'un d'autre. Donc, je vais pas trop m'avancer sur ce sujet-là, mais non, ben, je crois que triste, c'est le mot qui me vient. Après, je sais pas trop quoi dire.
Rien à ajouter. Mais est-ce que tu as fait partie de la boucle, la fameuse boucle WhatsApp de...
Non, je suis sur une autre. Je suis sur celle de la rentrée.
Bon, en tout cas, les boucles WhatsApp resteront où elles sont ce soir. On va parler de textes. Ici, on s'intéresse plus à la littérature. Qu'aux périphéries de la littérature, même si elles ont leur sens, parce qu'elles nous permettent de rencontrer les textes. On parlait du coup de Maman la nuit, de cette voix de la petite fille où en fait on se demande, tu disais, on se demande si c'est pas un délire à la fin. Bon, c'est peut-être le pouvoir enchanteur aussi de ton écriture, c'est que comme tu as travaillé à partir d'une voix en étant quasiment en travail de performance, hein, si je comprends bien, on crée une voix avec de la sonorité, un imaginaire, on s'imagine cette petite fille dans un contexte, tu places le cadre de la mère, donc on est dans un imaginaire et tu t'investis avec tout ça, avec ta machine d'écriture intérieure, si je puis dire. Comment du coup on investit une autre machine avec Chambre 908.
Je crois que s'il y a quelque chose de commun, c'est l'impulsion très initiale, c'est-à-dire le besoin d'aller chercher dans le langage, que ça soit dans la poésie ou dans le récit, parce que la différence c'est aussi ça, c'est que Chambre 908 tient quand même beaucoup plus de la poésie au sens formel, je veux dire, au sens strict, enfin comme livre, que Maman la nuit où on est, bon voilà, c'est un premier roman, on est, même si je viens de la poésie, donc je garde quand même cette langue poétique dans Maman la nuit, mais il y a quand même une construction narrative là où dans Chambre 908 elle existe évidemment, mais je me suis plus attachée à chercher des fulgurances dans le sens à essayer de capter les images, la vitesse du langage qui peut nous faire ressentir en fait des choses que la narration ou le récit peine à appréhender, que ça soit de l'ordre des grandes douleurs, des choses qui ne se disent pas ou des choses peut-être difficilement, enfin qui s'élaborent difficilement. Je trouve que la poésie est justement capable de venir nous faire ressentir ces choses-là sans passer par la compréhension intelligente. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus corporel, si j'ose dire, dans le geste même d'écriture, peut-être dans Chambre 908, quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus direct et dans l'immédiateté. Là où dans Maman la nuit, le processus d'écriture a été beaucoup plus long et il y a eu un travail de structure un petit peu différent.
Oui, c'est évident que ce que tu dis, on le retrouve. Enfin, ça résonne tout à fait à la lectrice que j'ai été de Chambre 908. On est justement dans quelque chose de beaucoup plus viscéral. Hein. Oui. Le départ du proche, en tout cas, a créé dans ta langue l'arrachement. Et comment l'arrachement, à un moment donné, on veut le retenir. Donc on est dans un verbe fort qu'on retrouve, en tout cas le verbe ici étant, je l'utilise par métaphore, sur ce que ça veut dire qu'une langue qui veut arracher la vie ou celle qui est en train de partir. Donc le chant des chants qu'on retrouve chez Baudelaire ou chez l'autre Rameau. Enfin là, on en est... on est entre la vie et la mort, où on veut arracher le mort de là où il va. Donc c'est extrêmement organique et organisé par ailleurs. Ce qui m'a vraiment touchée dans ta langue sur ce texte-là, là où on pourrait peut-être Annie Ernaux serait partie dans, on va dire, une forme d'humiliation du corps où elle n'aurait pas eu peur de ça. Tu vas dans des détails quand même assez crus. Tu investis la langue pour à la charger quand même du corps qui se décompose. Donc on est quand même, on va pouvoir pousser des images. Tu pousses des images assez loin avec ta langue. Et par ailleurs, on ne rentre jamais dans quelque chose ni de trivial ni de sordide. En tout cas, on ne va pas tomber dans un pathos. J'ai l'impression que ta langue arrive à épargner quelque chose quand même de l'ordre d'une pudeur, tout en chargeant en fin de compte les images. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait une touche dans ton écriture qui était très délicate, limite une écriture qui écrit du bout des doigts, en tout cas qui tapote, pas qui va aller chercher à crocheter, là où quand même les images pourraient nous rappeler celle du corbeau, qui va chercher ce qui lui manque, des choses comme ça assez cruelles. Tu nous épargnes beaucoup, ta langue nous épargne, et du coup on est tenu à distance. Tout en étant dedans. Et c'est ça, je pense, la force de ce texte, c'est qu'on est complètement dedans, dans ce processus. Et en même temps, ta langue arrive à nous maintenir dans une sorte d'écrin, parce que c'est posé. C'est posé, c'est déposé et c'est pensé. Hein, on sent quand même qu'il y a quelque chose d'extrêmement maîtrisé dans tout ce que tu fais. Et c'est une forme de pudeur qu'on ressent. Tu nous emmènes là où c'est possible pour toi et dans l'observation que ça retranscrit. Donc déjà, merci beaucoup pour ça, parce que je le relisais comme je te disais à l'autre Rameau il n'y a pas très très longtemps. Bon, ça va loin, et puis là il est question quand même de choses où il est question d'un meurtrier, donc le travail de la description des corps sont difficiles. Et par ailleurs, on va quand même aller chercher quelque chose de céleste. Alors je me suis posé une question in fine, est-ce que c'est pas dans les processus les plus tragiques que les auteurs les plus puissants dans l'écriture n'arrivent pas à un moment donné à percer quelque chose du réel?
C'est une grande question, ça. Je ne saurais pas y répondre, mais juste pour rebondir sur l'absence, en tout cas le détour du sordide, de ne pas passer par le sordide. En fait, parce que ce qui m'intéressait vraiment dans cette écriture-là, dans Chambre 908 et ce récit-là, autant poétique soit-il, c'est la frontière. C'est la frontière entre quelque chose de terrible, bien évidemment, qui est la mort d'un proche, qui est quelque chose que tout le monde vit une fois dans sa vie, au minimum, et en même temps d'essayer de... Enfin, pas d'essayer, mais de prendre ça comme quelque chose de l'ordre du passage initiatique, en fait. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas le sordide. Évidemment que le corps se décompose, évidemment que c'est terrible, mais en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment tout ça aussi peut être comme le début d'une grande aventure. Et donc, c'est cette tension-là entre la chambre d'hôpital, la décomposition du corps, et les grands espaces, et le ciel toujours ouvert, et la possibilité d'aller jeter les cendres en haut d'une montagne, et quelque chose qui continue sous une autre forme, et comme si la chambre d'hôpital était un peu la coulisse d'une grande aventure, en fait. Les prémices de quelque chose. Alors, donc peut-être que ça flirte ici avec la pudeur, mais c'est parce que c'est cette ligne-là, je crois, qui m'intéressait d'essayer de saisir. En tout cas, moi, pour me tenir debout, j'avais besoin d'être sur cette ligne. Donc l'écriture... j'ai essayé de la saisir à cet endroit-là aussi.
Non, bah écoute, c'est passionnant toujours de discuter avec un auteur de la fabrique de son texte, parce que de savoir vers où tu regardais, vers ce ciel, vers ces espaces, pensant qu'il y aurait un ailleurs, pensant qu'il y avait une continuité, qu'il y avait une permanence de la vie. En plus, bah, ce soir, on le sait d'autant plus que tu vas accueillir la vie. Donc on voit bien ces chaînes de filles et de pères et cette métamorphose de la matière qui nous emmènera toujours de cycle en cycle vers la vie. On va faire une courte pause musicale. On va écouter Coco Rosie, Hopscotch. I got a hopscotch teardrop ready to drop. 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 I got a hopscotch C'était Coco Rosie avec Hopscotch. Et on va écouter tout de suite le petit coin lecture, nos chroniqueuses jeunesse. On va découvrir Lota la filoute.
Les filles, c'est l'heure du petit coin lecture.
J'arrive.
Allez les crocros, les crococos, les croconiques. Le petit coin lecture sur les bords de la littérature.
On parle de quel livre aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on vous parle de
Lota la filoute
de Astrid Lindgren, illustrée par Beatrice Alemania.
Mon frère, il s'appelle Jonas. Moi, je m'appelle Mia Maria. Et notre petite sœur, c'est Lota. Lota, elle a un tout petit peu plus que 4 ans. D'après papa, avant qu'il ait des enfants, c'était calme à la maison. Mais ensuite, c'est devenu un vrai charivari.
Jonas, Mia Maria, Lota et leurs parents habitent une maison jaune de la rue des Filous.
Attends,
Lota est la plus petite, mais elle n'a ni sa langue dans sa poche, ni envie de se laisser marcher sur les pieds. On suit son quotidien et ses péripéties racontées par Mia Maria, sa sœur de 6 ans.
On aime les mots inventés par Lota.
Lota fait ce qu'elle veut, y compris avec les mots. Par exemple, son doudou, un cochon en peluche rose, elle l'appelle...
Nounours.
Son frère Jonas lui fait pourtant remarquer...
Les ours, c'est pas rose. D'ailleurs, à ton avis, c'est un ours blanc ou un ours brun ordinaire?
C'est un cochon-ours.
Lota ne dit pas « crotte de bique », elle dit
« bête de bique ».
Quand elle passe une journée où tout se passe mal, elle ne dit pas « une journée de travers », mais
« une journée de trop vert ». On aime l'impertinence de Lota.
Dans un train, Lota et sa maman partagent le compartiment avec un vieux monsieur.
Il a une verrue sur le menton, le monsieur.
Chut, il pourrait t'entendre.
Mais il ne sait pas qu'il y en a une.
On aime la liberté de Lota.
Lota dit non. Lota fait sa vie. Un jour, elle en a assez de sa famille qui lui dit toujours ce qu'elle doit faire. Alors, elle décide de déménager. Elle se réfugie chez la voisine Madame Berg qui lui permet de s'installer dans son grenier. Madame Berg lui fait même parvenir ses repas par un petit panier qu'elle hisse par la fenêtre.
Super pratique, en plus zéro vaisselle. Et après ça, les gens prétendent que c'est trop dur de tenir un ménage.
C'était le petit coin lecture avec...
Julie, Mathilde
et Marie, aujourd'hui avec...
Lota la filoute
de Astrid Lindgren. Traduit du suédois par Aude Pasquier et illustré par Beatrice Alemania, un livre paru aux éditions Versant Sud en 2019.
Et nous sommes de retour sur le plateau en direct avec Sarah Bourg. Est-ce que la littérature jeunesse, vous en lisez encore? Tu en lis encore?
Non. Mon grand regret, parce que je crois qu'il y a des choses vraiment super. Mais c'est vrai que c'est une lacune. Je vais devoir bientôt me rattraper. mais non, c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe-là.
La lectrice que tu es, parce que les bons auteurs, les très bons auteurs, lisent beaucoup, c'est qui sont ces piliers pour toi?
Alors... J'ai beaucoup lu Marguerite Duras, plus jeune. J'ai beaucoup lu, et je lis encore beaucoup Virginia Woolf. Je lis beaucoup Régent Ducharme, qui est un auteur québécois. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps Sarah Stridsberg. Je trouve que c'est une auteure incroyable. J'ai beaucoup lu, tu parlais de L'autre amour et Rimbaud, ça m'a aussi bercée pendant longtemps. En fait, c'est vraiment... ça dépend des périodes. On va dire que je n'ai pas vraiment des choses très fixes qui restent tout le temps. Mais j'ai comme des phares qui vont s'allumer en fonction de peut-être de ce que je traverse, de ce que j'écris ou je ne sais pas. Mais ça varie beaucoup, ce que je peux lire. Là, c'est les noms qui me viennent, mais il y en a évidemment plein d'autres.
Sur le nouveau roman qu'on va pouvoir découvrir d'ici quelques semaines maintenant, quel est le ton si tu peux déjà nous donner un petit peu envie, on va découvrir d'ici quelques instants le texte de Chambre 908, donc les auditeurs vont pouvoir découvrir cette langue. Est-ce que la nouvelle langue du sang bleu, elle correspondra à quoi si tu pouvais l'écrire? Les sangs bleus.
Alors, à la différence de mes textes précédents, c'est un roman qui alterne deux voix, la voix de la sœur et la voix du frère. Donc, on est vraiment dans deux voix différentes. La voix de la sœur est écrite à la seconde personne, ce qui crée un peu un effet de... C'est un peu la voix de l'observation. C'est par elle qu'on va accéder un petit peu à tout ce qui se déroule pendant ce déjeuner et dans cette maison. Là où la voix du frère est à la première personne et va aller chercher quelque chose de beaucoup plus viscéral. Il est beaucoup plus dans la rage, beaucoup moins dans la distance. Donc, je crois que c'est peut-être ça, la particularité de ce texte-là, la manière dont la nouveauté pour moi dans le travail a été vraiment d'alterner ces deux voies-là et d'aller chercher deux manières d'être au monde et dans le langage très assez différentes.
Tu as évoqué la thématique tout à l'heure de la lutte de classe. Enfin, tu ne l'as pas dit comme ça, rivalité de classe.
Au sein d'une famille.
Au sein d'une famille. Jusqu'où cette différence dans une famille de possession matérielle, elle peut briser le lien?
Jusqu'à la rage extrême. Là, ce que j'explore, c'est la rage de ces enfants qui viennent de perdre leur père, qui, lui, a toujours été invisibilisé par sa belle famille, qui est une grande famille aristocrate, une famille de pouvoir, dans laquelle le pouvoir est toujours transmis de père en fils. Et la mort du père, ce qui va se passer après, c'est pas tant du chagrin, mais c'est toute une violence qui va émerger. Et comme si la quête des enfants, et du frère en particulier, va être celle de réparer ce que son père n'a jamais pu avoir. Et pour ça, il va commencer à voler des objets, il va vouloir piller un peu la famille de sa mère pendant ce déjeuner, là où la sœur, elle, va être plus dans quelque chose de l'ordre de la dissociation et de la distance, où le réel va un peu se déformer autour d'elle et où cette famille va lui apparaître comme monstrueuse et glaciale.
Eh ben, ça donne déjà envie d'ouvrir les premières pages, parce que tu l'as annoncé tout à l'heure, on va partir d'un portrait quasi social, en tout cas quasiment psychologisant, et on va basculer ensuite dans un onirisme, une fantasmagorie. Là, tout de suite, j'ai des réalisateurs qui me viennent en tête. Est-ce qu'on serait dans un truc un peu à la Festen?
C'est une des... Enfin, en effet, déjà, le dispositif même, qui est celui d'un repas, donc évoque tout de suite quelque chose comme Festen. Même si la violence émerge de manière assez différente et il y a évidemment beaucoup de divergences, mais oui, le dispositif parle en lui-même.
Il n'y a pas question d'un père qui a incesté de toute la famille.
Alors non, pas le père, mais il y a en effet des histoires d'intrusion et d'inceste dans la famille qui ressurgissent aussi à ce moment-là. En fait, plus que des rapports d'inceste, c'est... Enfin, pas plus, je dis plus, mais c'est... Je veux dire, c'est surtout des rapports de domination. Et dans ces rapports de domination, évidemment que le rapport à la sexualité en fait partie, en fait, de manière intégrante.
Ouais, bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu as lu le livre de Dorothée Ducy, mais elle indique que l'inceste, c'est le berceau des dominations. Et puis après, t'as les grandes branches, donc ça va de la domination des corps, des enfants, des femmes, des jeunes femmes, des personnes âgées, enfin, de spolier les biens matériels. Enfin, on est sur un continuum des violences de la possession. Et on voit bien, en tout cas, dans ces ouvrages, qu'il y a un fil et puis que tout tient très, très, très bien sur une logique destructrice. En tout cas, et de pouvoir. Alors c'est intéressant que tu aies évoqué la notion de pouvoir glacial d'une famille aristocratique. Je voyais la dernière fois encore des œuvres et puis des commentaires, surtout sur les œuvres que la France adorait Visconti, qu'elle adorait ces grands monarques que de l'art, alors qu'on parle quand même de situations à chaque fois d'emprise, d'érotisation de tous ces aspects-là. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'enfin les vaincus, à travers ton roman, est-ce qu'ils gagnent à la fin, est-ce qu'ils arrivent enfin à partir heureux ou ça se finit toujours mal?
Oui, enfin, c'est ni oui ni non, en fait. C'est une résolution un peu en suspens.
Bon, c'est mon côté petite fille rêveuse. Bon, à la fin, ça se termine bien. Les fermiers, ils sont tous à la campagne, ils vont bien, ils regardent leurs enfants, ils sont heureux. Je te propose, Sarah, si tu es d'accord, de pouvoir partager quelques instants, une première lecture de ton recueil Chambre 908 pour faire écouter ton écriture aux auditeurs ce soir.
Chambre 908. Le sommeil, ici, est carnassier. La nuit tombe sur ton lit sans prévenir, en plein jour, arme au poing. Ta viande n'emmène pas large, encastrée dans l'odeur blafarde des rémissions. Nos cercles, nos grandes cavales. Une dernière fois le feu. Le bruit de ton corps est blanc, si je peux dire, si je peux entendre les couleurs qui se heurtent à l'intérieur. L'espace clos du visage a été forcé, je vois l'endroit des effractions, le scandale déroulé comme un mauvais film à l'arrière du regard. Ce qui résiste, le soleil en flaque sur les draps, le débordement du jour dans la chambre. Il y a un frère pour souffler fort dans les trompettes noires de la nuit. Cogner au sang les immenses tambours de l'aube, réinventer le rythme, notre alcool fort d'il y a 1000 ans, une autre vie. Retrouver le temps dispersé par grand vent, grand fracas, l'enfance froide égarée au fin fond des dédales aseptiques. Penché sur son piano, il dit « La mort, ce soir, n'aura pas lieu. » La maladie se nomme à l'aube, à demi-mot. Tu te couches, parmi les bêtes tu pleures, voudrais revoir les gorges ensoleillées, les crêtes qui dans le vent enflent comme des ventres noirs. À cette heure du ressac, le ciel se porte sur les épaules. Tu entoures tes yeux d'un long ruban blanc pour contenir le lac entre les os du crâne, pour apaiser le vent, faire plier les images. À qui faut-il promettre qu'on reviendra vivant ?
C'était un extrait de chambre 908, et pas 909, quand j'ai dit avant la lecture. Donc là, les auditeurs peuvent mieux entendre cette langue qu'on décrivait un peu avant. Est-ce que ce processus d'écriture, aujourd'hui, tu penses qu'il va pouvoir se réaliser dans une expérience que tu es en train de porter corporellement ? Est-ce que tu crois qu'il y aura quelque chose à écrire après cet autre passage rythélique de toi, femme, et de, ensuite qui va passer à cette place de mère ?
Sûrement. Je ne sais pas du tout de quelle manière ça traversera l'écriture, mais l'écriture sera évidemment traversée par cette nouvelle aventure, cette nouvelle expérience. Mais la manière m'est encore très, très, très étrangère, très inconnue. Mais oui, je pense bien sûr que ça va contaminer le geste d'écriture.
Est-ce que c'est angoissant de se dire j'écrirai, en même temps j'aurai un enfant, est-ce que je ne dois pas choisir ? Est-ce qu'elle ne va pas venir coloniser ma vie d'artiste ?
Si, c'est très angoissant. C'est évidemment une question que je me pose et qui tourne beaucoup dans ma tête depuis quelques mois maintenant. Je n'ai aucune réponse. D'ici un an, j'en saurai un peu plus sur comment les choses vont se mettre en place. C'est évidemment inimaginable pour moi d'arrêter d'écrire. J'imagine que par contre, je vais écrire différemment. Concrètement, même au niveau horaire, au niveau de l'organisation, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Voilà, comment, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, c'est angoissant.
Et ça se manifeste comment ? Du coup, c'est des questionnements, c'est des stress ?
C'est des stress, c'est de se dire « Ah, mais là, j'accouche dans 2 mois et demi, il faut que j'écrive avant un nouveau livre », ce qui, évidemment, n'aura pas lieu, parce que je suis fatiguée. Mais voilà, c'est cette espèce de fantasme un peu de foufou. J'ai 2 mois et demi pour faire plein de trucs, et puis après, on va basculer dans complètement autre chose. Voilà, je pense que le stress se manifeste un petit peu comme ça, dans une urgence. Je crois que la vie est encore pleine de surprises et les choses se feront d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas encore comment.
Quelle est la lisière entre la résignation et le renoncement ?
Une lisière fine entre la résignation. Alors.
Toi qui arrives justement à écrire sur ces lignes de crête, ce travail de feutrine ou de soie, en tout cas on est sur une délicatesse... Où trouver ce chemin de la liberté et de la justesse dans ce temps si cher pour créer ?
Intuitivement, je dirais que dans le renoncement, il y a quelque chose de plus... J'allais dire de plus digne, c'est peut-être pas le mot, mais de plus droit. C'est vraiment très intuitif. Là où la résignation me fait peut-être penser à... c'est pas possible de faire autrement. Donc c'est un peu la dernière des solutions. Là où le renoncement m'apparaît plus comme un choix. Voilà, je sais.
Passionnant, passionnant, on pourrait digresser. Ben oui, c'est ça le travail des auteurs, c'est de travailler avec les mots, de naître avec eux et de les accompagner pour voir où ils nous emmènent. On va écouter un second extrait de Chambre 908.
Tu parles de l'Amazonie. Manaus, tu iras. Dans tes chevauchées morphines, tu traverses l'Atlantique et nous ramènes le soleil à la surface du rêve. On te suit. Dans les trois passages du délire, tu nous guides dans les artères labyrinthiques de l'aventure et comment ne pas te croire et pourquoi devrions-nous rester sur le rivage quand pris dans la ouate d'un sommeil au long cours, tu deviens un capitaine. Auras-tu la force du retour? Dans mes bras, ton poids d'animal accélère le paysage. Nous roulons sous la clôture électrique. Voici la ferme, et là, le ciel penché, l'ombre des garçons partis en montagne, le souffle lointain des dentelières. Les portes ne ferment plus. Tu touches ce temps qui se dérobe, retiens dans tes yeux l'eau et la poussière. Quelques jours seulement. Parce que le soleil se fond à l'anxiété. Tu as dit en riant, je ne vais pas disparaître. Alors, nous t'avons cru.
C'est un extrait très fort que vous venez d'entendre de Chambre 908. Le départ d'un proche, le départ d'un père, qui a été un père réel pour l'autrice. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de beauté dans ce passage. Merci pour merci de l'avoir partagé. Les sons bleus vont être très différents, on l'a bien entendu. En tout cas, on va pouvoir savourer, laisser infuser en nous cet extrait. Je vous invite vraiment également à lire Maman la nuit, qu'on n'a pas entendu ce soir, mais qui est une belle présence pour chaque lecteur qui nous écoute à suivre. Et puis pour les sons bleus, on va découvrir ce qui va se passer. À quelle date on va pouvoir se rendre chez nos libraires ?
26 août.
Le 26 août. Écoute, Sarah, on va te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu voudrais faire passer un message aux auditeurs ou aux futurs lecteurs de Grasset de changer de maison d'édition, bien évidemment, mais pas de tes textes à toi. On change pas d'autrice.
Non, j'ai pas grand-chose à dire sur Grasset là, mais de continuer à lire de la poésie.
Et qui en particulier, tu recommandations de lecture?
Ah voilà, là je vais pas avoir d'idée, bien évidemment, sinon c'est pas drôle.
Une femme que t'as aimée ou un homme que t'as aimé à lire.
Contemporain ?
Qui tu veux ?
Eh bien, Sarah Strisberg.
Sarah Strisberg, qui est aussi dramaturge.
Oui, et ça, c'est plus du roman, mais bon, les frontières sont fines et c'est ça qui est intéressant.
Eh bien, recommandation de lecture de Sarah Bourg, Sarah Strisberg. La nouvelle bouquinerie en ce lundi 11 mai 2026 est terminée. On était avec Antoine à la réalisation, en compagnie de Sarah Bourg pendant 45 minutes. C'était une joie de t'accueillir. Merci d'être venue.
Merci beaucoup.
Le meilleur pour la suite et surtout le meilleur pour nous de découvrir ce nouveau texte, Les Sons Bleus chez Grasset. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit au mois prochain.